Bonsoir, vous venez d'embarquer dans le sous-marin pour une heure d'actu étudiante, culturelle, politique, associative, économique ou sociale. Notre sous-marin n'est pas jaune, mais il fait bon y passer une heure tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 19h à 20h. Enfilez donc un scaphandrier, il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. Je suis Tiffaine pour vous accompagner pendant cette heure au fond de l'eau. Mon équipage change tous les soirs et en ce jeudi, Rémi, Pierre-Antoine et Aminata sont à mes côtés. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Bonsoir.
Aujourd'hui dans le sous-marin, dans une première partie, vous entendrez le metteur en scène Thomas Joly qui met en scène donc Henri VI samedi au Quai, 8h30 de théâtre, une performance. Il nous racontera comment il en est venu à monter ce pari fou. Et dans une seconde partie, Charlotte Velty de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire nous parlera de la semaine des radios associatives qui commence demain et à laquelle Radio Campus Angers participe forcément. Parce qu'on ne change pas un sous-marin qui fonctionne, vous retrouverez comme chaque jour en fin d'émission la bulle sonore et l'agenda de votre soirée. Les hydrophones sont branchés, c'est parti. Une fois n'est pas coutume, Pierre-Antoine pousse un coup de gueule pour son premier billet d'humeur de la saison.
Assez, j'en ai assez. Assez de voir les Zemmour, Soral, Ayoub, pseudo-humoristes et autres troublions d'extrême droite s'approprier le concept de la bien-pensance. Sous couvert de la liberté d'expression, les voici qui libèrent la pensée nauséabonde des années 30, la bave d'un Duras, le crachat d'un Céline, d'un Poujade ou d'un Jean-Marie. La pensée libérée d'une extrême droite décomplexée, remise à jour par une droite réac, opposée à tout changement sociétal, et voilà qu'elle défile en ordre de bataille, un dimanche presque comme les autres, applaudie, mise en avant, en appelant au renversement d'un gouvernement élu pourtant démocratiquement, dont la principale faute est d'avoir donné la parole aux anti-républicains. Loin d'être combattu, voilà qu'on lui donne une tribune, qu'on l'accepte, qu'on la légitime donc en lui donnant un air de respectabilité, par exemple lorsqu'un critique, comme Éric Nolot, écrit un livre d'entretien avec le plus extrême des blogueurs français. Voilà qu'on laisse à des idéologues se revendiquant ouvertement national-socialistes la joie de s'exprimer et de queneler un système aujourd'hui mis en danger. Alors oui, j'ai peur. Oui, j'ai peur quand des amis me disent que les francs-maçons, les juifs, les sionistes contrôlent le monde. J'ai peur lorsqu'au détour d'une conversation, j'apprends qu'il tracte pour Action Française. Quand le 2 février, le journal Le Monde titre le réveil de la France réactionnaire, j'ai peur quand ce même journal interviewe un Alain Finkielkraut qui annonce haut et fort que nous ne nous sentirons jamais représentés par les institutions européennes. J'ai peur quand Farida Belghoul, l'ancienne militante de la Marche des Beurs, prend le pas de l'exclusion et du raccourci en montrant du doigt une soi-disant théorie du genre pour mieux stigmatiser la communauté homosexuelle. Est-ce le mal d'une époque, d'un monde où l'information est limitée mais où finalement on réfléchit peu, ou alors est-ce à cause de la crise qui a souvent bon dos dès qu'il s'agit d'expliquer la haine de certains? Et à la question « y a-t-il une montée de l'extrême droite ?», je répondrai que la peste brune ne fait que se réveiller, elle qui a su, petit à petit, se faire accepter par une sordide politique de dédiabolisation. Alors j'ai peut-être peur pour pas grand-chose, peut-être que je me tracasse pour rien, peut-être que je vois un loup là où il n'y en a pas, peut-être que je suis trop alarmiste, mais j'ai quand même bien l'impression que la bien-pensance a changé de camp, et s'ils ont le droit de s'exprimer, j'ai aussi le devoir de ne pas écouter.
32 ans, dont plus de 20 ans de théâtre, d'abord comédien, puis très vite l'envie de prendre les manettes, Thomas Joly fonde rapidement sa troupe, la Piccola Familia. Il y a 4 ans, il décide de monter Henri VI de Shakespeare, du jamais fait, du jamais vu depuis que le dramaturge a écrit la saga. Il présente samedi à Angers la dernière date de la tournée. 8h30 de théâtre, vous entrez au Quai à 15h et vous en ressortez en toute fin de soirée. 8h30 de Shakespeare, c'est le pari fou qu'a fait Thomas Joly, metteur en scène d'Henri VI qui se joue samedi au Quai. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Cela fait 4 ans que vous avez commencé à monter Henri VI en 2 parties, 2 fois 8h30. Et c'est la première partie qui sera jouée samedi, la seconde sera présentée cet été à Avignon. Vous êtes le premier en France à monter l'intégralité du cycle. Comment vous est venue cette folie?
Cette folie, elle a démarré en 2004, quand j'étais élève à l'école du Théâtre National de Bretagne, à Rennes, où j'avais fait un atelier sur Henri VI, suivi un atelier sur Henri VI, et j'étais tombé amoureux de cette saga, parce que c'en est une. Henri VI, en fait, regroupe 3 pièces de William Shakespeare, donc 3 fois 5 actes, avec plus de 150 personnages, et effectivement, une très longue durée de représentation. Et puis en 2009, la Piccola Familia, donc qui est la compagnie que je dirige, on était à son 3e spectacle. Elle avait déjà 3 ans d'existence. On a monté les 3 premiers spectacles avec le même groupe d'acteurs. On était 6. Et puis je sentais qu'il fallait à un moment donné ouvrir un peu notre plateau à de nouvelles rencontres, à de nouveaux acteurs venus d'autres façons de faire, même d'autres générations. Et que j'avais envie de développer aussi un travail sur la durée. Or, évidemment, pour monter Henri VI, il faut du temps. Et ça, ça a été d'abord la première raison par rapport à la compagnie. Après, il y a évidemment ce que ça raconte, Henri VI. Alors, je ne vais rien vous apprendre. Ça raconte évidemment le règne d'Henri VI, ce roi anglais qui a régné de 1422 à 1471 et qui a un règne un peu particulier. Bon, c'est un règne très long. Très long parce qu'il a commencé très tôt pour lui. Il a commencé à la mort de son père, Henri V. Et quand Henri VI monte sur le trône, il a 9 mois.
Or, c'est effectivement très tôt.
C'est très jeune. Or, son royaume est plongé dans une très longue guerre, la guerre de 100 ans avec la France. Et plus tard, plus il va grandir, son règne va encore être entaché par une deuxième guerre, la guerre civile dite des Deux Roses. Donc c'est un règne qui est sanglant, qui est complètement chaotique et qui est assez passionnant parce qu'il il brasse environ un siècle entier, quasiment tout le 15e siècle. Et ce qu'il raconte Shakespeare là-dedans, ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai la sensation de revenir en fait aux origines de notre époque. Le 15e siècle est relaté par Shakespeare qui lui-même écrit au 16e siècle et ces deux siècles sont un petit peu un tournant, je crois, de l'évolution des civilisations occidentales à l'époque, hein, puisque l'Amérique au moment d'Henri VI n'est toujours pas découverte. L'imprimerie va se développer. Pendant le règne d'Henri VI, on croit encore que la Terre est au centre de l'univers, hein, ce qui va changer avec Copernic, avec Galilée. C'est aussi l'imprimerie, donc la circulation des œuvres, traduction de la Bible bientôt, le protestantisme, c'est l'invention des armes à feu, c'est le développement de la navigation, donc de l'économie marchande, et donc aussi des premières théories capitalistes, on pourrait appeler ça, enfin, on appelle ça comme ça aujourd'hui, mais à l'époque c'est les prémices en tout cas de ces idées-là. Donc je trouve qu'en fait c'est un petit peu aller réinterroger notre époque par ce qui pourrait être son commencement. Ça, c'est sur le fond. Après, il y a aussi énormément de questions, parce que la pièce soulève beaucoup de sujets. On pourrait parler, par exemple, de la place des femmes dans Henri VI, qui est, hélas, un petit peu identique à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Et puis, on pourrait aussi parler de ce roi qui est pieux, qui est bienveillant, qui est juste, et qui, pourtant, va connaître ce règne très sanglant, une des pages les plus sanglantes, en tout cas, de l'histoire d'Angleterre. Et la question est la suivante, comment se fait-il qu'avec de si belles valeurs de royauté, on mène son royaume à tant de barbarie. Et puis, on remarque que dans les factions politiques, il y a déjà les ambitions personnelles qui prennent le pas sur les ambitions collectives, et que dans un même parti, les dissensions sont assez venimeuses. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont, je trouve, à l'image de notre époque. Effectivement, on pourrait dire que l'époque du règne d'Henri VI est une époque de crise, hein. Clairement, un petit peu comme en ce moment, on en traverse une. Enfin voilà, c'est des périodes qui sont fastes et riches, en tout cas en événements et en pensées. Donc voilà, tout ça m'a mené vers Henri VI. Après, il y avait aussi la question de la forme. Vous avez posé une question, vous avez vu, j'ai beaucoup de choses à dire, parce qu'Henri VI, forcément, c'est très long. Mais il y a la question de la forme aussi, puisque Shakespeare... Tout ce que j'ai l'air de dire là a l'air très 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 confus, mais en fait Shakespeare le relate de façon très simple, en passant par tous les registres que le théâtre peut offrir, c'est-à-dire de la comédie, de la tragédie, du politique, du polar, du fantastique. Et c'était un terrain de jeu formidable aussi pour le jeune metteur en scène que j'étais, pour les acteurs, pour les actrices, et puis pour les créateurs techniques et artistiques qui sont à l'œuvre avec moi sur ce projet.
Alors justement, comment est-ce qu'on aborde en tant que jeune metteur en scène, et même pour votre troupe d'acteurs, comment est-ce qu'on aborde 8h30 de théâtre et 17h finalement cet été?
Finalement 17h. Ça fait partie aussi des raisons. À un moment donné, en 2009, quand j'avais monté mes trois premiers spectacles, je me constatais une chose qui me semblait assez mortifère, c'est-à-dire que les objets culturels, théâtraux, on va dire, en tout cas dans le domaine que moi j'exerce, étaient vachement calibrés. Des spectacles plutôt courts, qu'on peut venir voir comme ça assez rapidement, avec pas trop d'acteurs, qui coûtent pas trop cher. Et je trouvais en fait que il y avait quelque chose là qui m'empêchait, quelque chose que je trouvais castrateur, enfin en tout cas enfermant. Dans la façon dont la politique culturelle est conçue, il y a de très beaux objets, hein, qui durent une heure et demie, mais moi je sentais comme une espèce de rétrécissement. Alors j'ai posé Henri VI sur la table, et là évidemment la jeune compagnie que nous étions, le jeune metteur en scène que j'étais, se confronte à une réalité. Personne ne croyait à ce projet. Ça n'a jamais été monté, effectivement, vous avez raison de le dire. Ces trois pièces n'ont jamais été montées dans leur intégralité depuis que Shakespeare les a écrites, hein, donc depuis la fin du XVIe siècle, pour des raisons qui ne sont pas, pour moi, des raisons littéraires, parce que c'est un chef-d'œuvre, mais par contre, pour des questions bien logistiques et économiques. Monter Henri VI, c'est évidemment pousser les murs. Les murs dans tous les sens du terme, hein. Pour les acteurs, c'est un défi physique. Pour les équipes techniques également, chaque scène est un défi technique quasiment. Pour les théâtres qui nous accueillent, c'est aussi repenser l'accueil du public, repenser la billetterie, repenser un petit peu tout ce qu'on a l'habitude et qui est rentré dans cette fameuse routine entre guillemets des objets culturels.
Et pour les spectateurs.
Et pour les spectateurs aussi, tout à coup, c'est une expérience pour le coup. On ne vient pas voir Henri VI. On ne vient pas regarder Henri VI, on le traverse. Et cette chose-là, moi, m'importe beaucoup, car le théâtre, pendant Henri VI, retrouve, je crois, l'un de ses éléments fondateurs qui a fait sa grande époque. Là, je parle des Grecs dans l'Antiquité. C'est-à-dire qu'on vient passer la journée au théâtre. Et que dans une journée, on a faim, on a soif, on a sommeil, on est fatigué, on a envie d'aller aux toilettes, par exemple. L'organique, le corps, le physique reprend le pas sur la question de du regard et de la durée devant l'œuvre. Ça m'intéresse beaucoup parce que tout à coup, en fait, eh bien, on se rend compte que nous sommes, samedi, nous serons 900, plus l'équipe, donc environ 950 au même endroit, en même temps, à jouer ou regarder la même œuvre. Cette chose-là, ce côté rassembleur, ce côté fédérateur du théâtre, m'importe beaucoup, d'autant plus dans cette époque, dans cette période de crise, comme je le disais, où la division fait son beurre, où tout le monde fait son beurre plutôt de la division, plutôt que de penser la chose dans l'autre sens, qui me semblerait à mon avis plus cohérent et plus constructif. Eh bien, moi, mon petit endroit de metteur en scène, je crois que rassembler comme ça 1000 personnes dans un même endroit, manger ensemble, débattre pendant les entractes, on connaît son voisin, par exemple, à la fin d'Henri VI, ce qui n'est pas forcément le cas des spectacles plus courts, rassembler, se rencontrer, partager, ça me semble être une valeur importante à défendre aujourd'hui et que le théâtre, tant qu'il peut le faire, doit faire. Voilà pourquoi aussi je suis allé vers cette pièce.
Dans une seconde partie d'interview, Thomas Joly parlera de teasing de Jack Lang et de Nicolas Sarkozy. Il nous dira qu'il faut bien dormir avant de jouer 8h30 de théâtre, toujours avec passion et avec le sourire. Ce sera juste après Temples, Shelter Song.
I read a brother to you. She left her room with a view.
Vous écoutez Le Sous-Marin sur Radio Campus Angers. Tout de suite, on retrouve la seconde partie de l'interview de Thomas Joly, comédien et metteur en scène d'Henri VI, samedi au Quai, mais pas que. En parallèle de cette performance qui se jouera donc samedi au Quai, cette semaine au Château d'Angers, vous avez présenté, en tout cas vous avez regardé d'un œil bienveillant H6 mètres carrés qui s'est monté en parallèle, en fait, dans l'ombre de Henri VI, la Grande. Shakespeare en 45 minutes joué par 4 acteurs et sur 6 mètres carrés, c'est presque un retour au théâtre populaire, très drôle, beaucoup d'accessoires, ça va très vite. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette petite forme? C'est l'attrait des extrêmes, en fait?
En fait, c'est surtout au départ la compréhension, en tout cas l'appréhension que ce spectacle trop long pour l'époque, pour notre époque, allait créer aussi de l'appréhension et de l'inquiétude chez le spectateur. On ne va pas de soi réserver pour Henri VI parce que évidemment on a peur de s'ennuyer. Alors pour pallier à cette appréhension-là, qui est logique et qui est normale, j'ai demandé aux acteurs de créer le petit frère, entre guillemets, du grand Henri VI, comme une espèce de bande-annonce ou un teaser, et de renouer effectivement avec une forme de théâtre qu'on va dire très populaire, très festif, presque un théâtre de foire, puisque le décor d'H6 mètres carrés, évidemment l'idée c'est de raconter tout Henri VI sur 6 mètres carrés en 45 minutes et par 4 acteurs, s'installe partout, là il est au château d'Angers, enfin il va un peu partout aussi pour répandre que se passe bientôt un événement, et puis il essaye de donner les clés d'entrée, puis surtout de commencer un rapport avec le public, de créer une émulation dans la ville.
Alors justement, Alice est allée voir H6 mètres carrés lundi, c'est une séance scolaire, elle a recueilli les avis des collégiens à la sortie.
H6 mètres carrés, c'était une pièce de théâtre, un remix un peu humoristique d'une pièce de Shakespeare.
C'était bien, c'est magnifique, c'est la première fois que je suis venue dans le château, alors c'est bien, je suis contente et j'espère voir plus de choses et puis je trouve qu'ils ont bien fait.
C'était assez drôle, c'était quand même assez bien fait pour quelque chose qui n'était pas dans une salle de spectacle et c'était sympa l'échange des personnages.
Je me suis trouvé dans une vraie pièce de théâtre. Ils ont bien joué leur personnage, même s'ils étaient que 4. Où c'était joué, c'était joué dans une église, très bien et je les félicite.
En fait, je veux dire que même si c'est pas une pièce de théâtre comme tous les autres et tout dans une salle avec un public, des autres projecteurs et tout, c'était vraiment différent et c'était bien parce que dans une salle différente et tout que franchement j'ai bien aimé en fait.
C'était dynamique, pas de temps mort, beaucoup d'énergie, drôle et ça fait passer l'histoire mais d'une manière justement amusante, décalée. Donc je pense que c'est super pour des collégiens justement, c'est très intéressant.
Thomas Joly, les collégiens vous félicitent.
J'entends ça.
Une réaction?
Je trouve ça très joli d'entendre ces témoignages-là. Par exemple, cette jeune personne qui dit que pour la première fois, elle vient au château d'Angers et puis c'est pour voir une pièce. Alors, est-ce que c'est une vraie pièce? Pas une vraie pièce, ça c'est rigolo d'avoir de l'image aussi qu'on a du théâtre. Moi, je suis baigné dans le théâtre depuis que j'ai, je crois, 11 ou 12 ans. J'ai dû commencer quand j'étais en 5e. Donc aujourd'hui, tout ça me semble assez logique et assez, commun, les théâtres. Mais c'est vrai que le théâtre a cette espèce d'image un peu compliquée, un petit peu même réticente, un peu impressionnante. Il s'agissait, je tiens à rassurer cette personne, d'une vraie pièce de théâtre, parce que le théâtre est une chose en fait très simple. Effectivement, les bâtiments peuvent impressionner. Effectivement, on peut avoir un rapport comme ça, complexé, et c'est un peu triste, je crois, et c'est de la faute non pas des spectateurs, hein, mais bien des artistes, qui n'ont pas su, ou qui ne savent pas, ou qui ne veulent pas se dire qu'à un moment donné, aller au théâtre ne va pas de soi. Voilà. Et que, il me semble, que là on le fait avec H6 mètres carrés, mais il me semble qu'il est important de re-réfléchir à cette donnée-là et de redonner le goût, de la curiosité de rentrer dans les théâtres. Le théâtre ne coûte pas plus cher que le cinéma. Ce n'est pas c'est terminé, cette idée-là. Et surtout, on peut retrouver une chose qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des vivants qui regardent d'autres vivants leur raconter des histoires. Dans cette époque d'écran, dans cette époque où tout est très dématérialisé, je pense que le théâtre a encore un rôle très important à jouer.
Dans un article du Monde, Thomas Joly, vous dites « J'ai commencé à faire mon métier sous Sarkozy, je n'ai pas goûté à cet avant qui était plus facile, donc je suis une machine de guerre, je n'ai pas de temps, pas d'argent, je me débrouille. » Comment ça se concrétise tout ça?
Cet avant dont je parle, c'est-à-dire qu'il y a, il y aurait eu, je parle là des années Lang, de Jack Lang, qui était ministre de la Culture, qui a fait un vrai projet politique et culturelle de civilisation, hein, quasiment une politique culturelle de civilisation, de grands projets qui ont réinsufflé sur la France un goût et une curiosité pour le coup vers la culture, chose que Monsieur Sarkozy n'a pas repris ou n'a pas poussé. Quand je dis qu'il n'y a pas d'argent et pas de temps, en fait, c'était aussi une phrase qu'il faut remettre dans son contexte. C'était l'époque où j'ai démarré, c'est-à-dire en 2006, où en tant que jeune compagnie, il y a une précarité qui est inhérente à toute jeune compagnie. Cette précarité, pas, et si on ne la subit pas, elle est source de grandes... On n'a rien. Donc on n'a que notre foi, notre croyance dans ce qu'on fait et notre envie d'aller au bout de notre projet qui nous pousse. Henri VI, même si, que les choses soient aussi dites honnêtement, Henri VI est un projet qui se fait avec beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui la compagnie n'est plus au même stade et que je tiens à ce que tous les artistes soient payés et tous les techniciens soient payés pour la moindre heure de répétition. Oui, Henri VI, aujourd'hui, on reçoit des subventions pour pouvoir travailler et se payer pour notre travail comme tout travailleur. Mais quand je dis que je suis une machine de guerre, c'est-à-dire que je suis toujours en fait dans cette espèce d'économie un tout petit peu précaire, même si Henri VI, encore une fois, mais à l'image de l'énormité du projet, il y a quand même une forme de précarité qui reste. Donc on a très peu de temps pour monter Henri VI et il faut aller vite. Moi, je ne subis pas cette relative précarité, on va parler comme ça. Je trouve qu'elle est plutôt heureuse et elle me permet voilà, d'être réactif et rebondir avec les acteurs sur trouver, voilà, ne faire avec rien. Ça tombe bien parce que Shakespeare non plus n'avait rien. Il le dit d'ailleurs dans le prologue d'Henri V, nous n'avons pas les habits des rois, imaginez que nous sommes vêtus de magnifiques costumes, nous ne savons pas monter à cheval ni nous battre comme sur les champs de bataille, imaginez que nous sommes non pas 10 mais 10 000, etc. etc. Donc cette espèce de théâtre avoué comme ça dans sa précarité, moi elle me va très bien pour monter Shakespeare. Je pense que Shakespeare trouve sa poésie aussi dans cette complicité à vue et avouée avec les spectateurs. Mais quand je dis que je suis une machine de guerre, c'est vrai que j'ai appris à travailler très vite, mais c'est surtout de travailler dans la joie, malgré la situation et le contexte économique quel qu'il soit, d'essayer de garder la joie comme moteur et comme carburant essentiel du travail.
Dernière question, Thomas Joly, après on vous libère. Comment est-ce que vous allez vous préparer pour cette pièce samedi? Vous l'avez déjà jouée, c'est la dernière de la tournée, vous le disiez tout à l'heure. Comment on se prépare avant 8h30 et les trucs?
On dort, il faut dormir. Vous savez, Henri VI, en fait, on ne peut pas la maîtriser. Ce qui se passera samedi, je ne peux pas le prévoir. Par contre, nous avons un petit peu comme quand, vous savez, on s'amuse à jouer à un jeu tous ensemble. Il y a des règles du jeu qu'on se redonne avec les acteurs, on se prépare. C'est-à-dire, n'oublie pas qu'à ce moment-là, etc., avec la technique aussi, il y a des rendez-vous. Et puis, en fait, on ne peut pas maîtriser cette œuvre-là. J'avoue, je confesse même que moi qui suis aussi acteur, j'ai joué des fois des pièces d'une heure, une heure et demie, en faisant mon travail, c'est-à-dire en me pointant un peu, c'est-à-dire, bon, j'avais pas très envie de jouer parce que j'étais de mauvaise humeur, j'avais une mauvaise nouvelle ou j'étais malade ou je sais pas quoi, et puis je l'ai fait quand même et on y voit que du feu. Henri VI, c'est pas possible. Henri VI, on est obligé, encore une fois, une question d'aveu et d'honnêteté, on est obligé, c'est tellement long, qu'on est obligé de la traverser honnêtement devant les spectateurs comme eux traversent très concrètement le spectacle de leur point de vue. Donc il y a cette espèce d'immédiateté d'ici et de maintenant qui est unique et qu'Henri VI génère parce qu'il est très gros. Après voilà, donc il faut dormir, il faut se reposer, bien manger et puis être un bon, toutes les règles du jeu étant posées, être un bon joueur, pas tricher et puis essayer surtout d'être dans une forme de générosité au moment où ça démarre.
Merci beaucoup Thomas Joly d'avoir accepté notre invitation et très bonne représentation samedi.
Alors. Merci beaucoup.
Henri VI, 8h30 de théâtre N'ayez pas peur. La pièce affiche quasiment complet, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une épidémie de grippe ou de gastro qui vous permettra de récupérer les places des malades. N'hésitez donc pas à appeler la billetterie du quai ou même à pointer votre nez juste avant 15h, on ne sait jamais. Rémi, absent la semaine passée, nous nous languissions d'en apprendre davantage sur l'économie de ta part, mais voilà que tu nous reviens en grande forme avec une cible souvent la même, finalement, le jeûne.
Ah, ce qu'il m'énerve, ces étudiants. Ils font la fête le jeudi soir, ils jettent leurs bouteilles d'alcool vides par terre, elles se cassent en morceaux sur la chaussée, et le vendredi matin, je vais en cours, tout bobo que je suis en bicyclette, et crac, mes pneus crèvent à cause de ces jeunes irresponsables et inconscients. Mais je suis tout de même vengé, car ces énergumènes oublient bien souvent qu'un invité inattendu s'est incrusté à leur soirée. L'État. Eh oui, les amis, les recettes publiques, ce ne sont pas que l'impôt sur le revenu de vos parents. C'est aussi vous, bande de jeunes. Prenons trois étudiants. En infocom, histoire de se faire bien voir dans cette radio qui en fourmille. Ces trois étudiants préparent leur soirée du jeudi soir. Ils vont donc acheter une bouteille de vodka ou de tequila à environ 12 euros, une autre de coca à 2 euros pour diluer, deux paquets de clopes pour faire jeûne, et pour le côté rebelle, du cannabis. Analysons donc chacun de ces produits du point de vue de l'État. Pour la vodka, c'est près de 10 euros qui partent en taxes diverses. Rappelons au passage que ces recettes servent à financer la faculté dans laquelle les étudiants ne se rendront pas le vendredi matin. Donc, 10 pour la vodka. Le coca a une TVA de 10%, donc 20 centimes pour chaque bouteille. Les clopes, ça, tout le monde sait combien ils raquent. Près de 7 euros, dont plus de 5 pour l'État et les hôpitaux où les jeunes complètement torchés pourront se faire soigner. Or, les 3 jeunes payent 2 paquets de clopes. 2 x 5, 10 euros pour l'État. On en est déjà sur 28 euros à plus de 20 euros qui reviennent à l'État. Alors évidemment, on pourra me rétorquer que toutes ces taxes servent à freiner la consommation de ces produits nocifs pour la santé de nos chers jeunes. Cela même qui, laissez-moi rire, serait l'avenir de la nation. Seulement de nombreuses études ont montré que pour ce qui est du tabac, on ne freine la consommation que par des augmentations fortes et symboliques. Demain, le paquet de clopes à 20 euros et tout le monde arrêtera de vouloir faire jeûne. Mais depuis 10 ans, les hausses de prix du paquet sont toutes petites. 10 centimes par-ci, 20 centimes par-là. Tout le monde continue à fumer et l'État a engrangé insidieusement de substantielles recettes. Au fait, combien d'étudiants sur Angers ? 30 000. 30 000 jeunes, donc 10 000 groupes de 3 qui vont gracieusement donner chacun 20 euros à l'État chaque jeudi. Deux multiplications et hop, 200 000 par jeudi, 10 millions par an. Vous versez 10 millions à l'État rien qu'en vous défonçant la gueule. Et pour Angers seulement. Ah, les jeunes, ça veut se la jouer rebelle et ça subventionne des administrations grisonnantes où on fait la queue pendant des heures. Alors, de la part de l'État, merci, les étudiants.
Mais pour le cannabis, l'État ne peut pas intervenir.
Pas encore, qu'elle est naïve. Une proposition de loi a été déposée par les Verts au Sénat pour légaliser le cannabis. Pour Esther Benbassal, la sénatrice à l'initiative de cette loi, la légalisation pourrait rapporter 1 milliard d'euros par an, faisant à peu près 20 millions par jeudi. Et alors là, jeudi, petit jeu de mots, jeudi, chapeau bas, l'État.
Merci Rémi, notre réactionnaire préféré que vous retrouvez tous les jeudis dans le sous-marin pour une chronique écho. Tout de suite, on marque une pause musicale dans ce sous-marin avec Benny le Brownies, Molar Trash.
De converse, les blancs me traitent comme noir, les noirs me traitent comme blanc, c'est complexe. M'en veulent parce que mes sapes viennent tout droit d'ABS, refusent de porter toutes leurs conneries contre culture, je fais du skate. Binous dans la poche de veste, j'ai perdu l'iPod de chez Cash, trop bourré ce soir-là. Pardonnez l'erreur de classe, l'effet de match j'évite, même si quelques tripes m'excitent. Hormis le fait que je veuille brûler ces quelques gars en Pyrex Nick, baise les soirées de loup comme Nick Tyler. M'en bats les couilles, skate, soleil et babs, la vie un jeu ou une canette de Sprite. Nonchalant malgré des paquets de sprint, paquets de chips, mon œuf, papa, quelques gars garnissent mes spliffs. Le spleen après les tirs, les mecs me traquent après mon verre de limonade. D'autres me checkent du poing, pourtant les mêmes snobés. Mon arrivée du coin, c'est drôle. Ben est plus vicieux que Sid Vicious dans le vice. Ma city trash pas mal, a le don de cela jouer trop vice. Trash, voilà. bac, j'étais au stud avec Lucas Mollard pour ses cours de compta. Nique l'école tout court, le diplôme dans la poche, c'est la carotte du siècle. J'aurais pu être comme Gisono, m'en foutre de tout ce qu'étaient les journées courtes, ou chiller dans une autre ville à boire des coups. J'aurais pu être comme Werner, paquet de shit, skate, avoir ce regard vide sans vide. Mais je suis le bouni, la pépite dans le cou qui je roupille en rêvant de boobies. Musique sape la masse de roupies pour mes gars. Roule un doobie qu'on s'évade, une grosse soirée qu'on s'éclate. Le lendemain ne changera rien, on sera toujours au même départ. Ma putain de paire de vannes s'écrate, encore un de ces couillons d'hier. J'sais plus trop sur qui cracher, j'ai fait que tu ma première prière.
Demain commence la semaine des radios associatives des Pays de la Loire, et ce jusqu'au 13 février, une semaine chapeautée par la Frappe. Mais qu'est-ce donc, et quiche quand j'entends une radio associative, qu'est-ce que c'est? Charlotte Valti, directrice de la Frappe, vous répond, vous, auditeur d'une radio associative. Bonjour Charlotte Valti, vous êtes directrice de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, qu'on appelle plus familièrement la Frappe. Merci.
Bonjour,
merci d'avoir accepté notre interview sur Radio Campus Angers. Alors, je vais présenter en quelques mots la Frappe. Elle réunit 23 radios associatives sur les 5 départements de la région. Dans les Pays de la Loire, on est la région qui écoute le plus la radio avec une audience de 85,5%. Comment vous expliquez un tel terreau?
C'est quelque chose qui est assez historique, puisque c'était une région qui déjà avait des radios pirates. Et puis c'est un territoire, les Pays de la Loire, qui est très diversifié avec toute la côte atlantique et également des zones plus rurales et des zones urbaines et des grandes villes avec Nantes et Angers. Donc voilà, cette diversité-là se ressent dans les radios associatives.
C'est quoi les spécificités d'une radio associative, justement, la petite fille des radios pirates? En quoi elles sont importantes pour un territoire?
C'est surtout le bénévolat, l'engagement associatif, ce qu'on met derrière aussi. Les radios de la Fédération de la Frappe sont... Il y a 1600 bénévoles. 1600 bénévoles, c'est assez important et c'est vraiment représentatif du territoire. Et puis, il y a un vrai engagement des gens qui font de la radio pour parler de l'information locale et également pour mettre en avant ce qui se fait sur le territoire.
Le fait justement qu'il y ait autant de bénévoles, ça change une ligne éditoriale dans une radio?
Oui, ça change puisque on n'est pas formaté, puisqu'il y a des gens à côté de ça, ils sont pompiers, plombiers, esthéticiennes, étudiants, demandeurs d'emploi. Donc on n'est pas ni à Radio France, ni dans des radios commerciales. Donc on parle vraiment comme dans la vraie vie, sans limite de temps, sans contrainte en tout cas, trop restrictive qu'on se met. Et par contre, il faut aussi souligner que c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on ne fait pas des émissions de qualité. Bien au contraire, il y a des gens qui sont très pointus sur des sujets. Et ça, c'est une vraie richesse pour les radios associatives.
Alors la Frappe, elle a été créée en 2006. Pour quelles raisons, quels étaient les besoins à l'époque des radios associatives?
Alors, il y avait deux raisons. C'était à la fois politique, puisque le Conseil régional et certaines institutions avaient un défilé de radio pour certaines négociations budgétaires. Et l'autre raison qui me semble la plus importante, c'est le besoin de se réunir parce que il y avait déjà des projets communs qui émanaient de Radio Nantaise. Et c'était aussi une manière de mettre à plat les choses et vraiment de formaliser le lien qui unissait les radios.
Donc concrètement, au jour le jour, c'est quoi votre travail à la Frappe pour unifier ces radios-là?
Alors, il est assez divers. En fait, on a tout l'aspect politique et lien avec les institutions, puisque maintenant, ils n'ont qu'un interlocuteur qui négocie des choses pour l'ensemble des radios. Après, on a une vocation de formation, puisqu'on fait des formations professionnelles et pour les bénévoles, donc pour faire monter en compétences l'ensemble des membres des radios. On a également un rôle d'insertion professionnelle avec, on a l'agrément pour les volontaires en service civique, donc on permet à des jeunes de moins de 26 ans de s'engager et d'être indemnisés pour travailler sur l'intérêt général dans les radios. Et puis on a également tout ce qui est veille et puis apport aussi en termes d'études sur le territoire régional.
Alors justement, vous avez publié l'année dernière un état des lieux des radios associatives en Pays de la Loire.
Oui.
Quel bilan est-ce que vous en avez tiré? Comment elles ont évolué depuis les premières radios pirates qu'on citait tout à l'heure dans les années 80?
Elles se sont clairement professionnalisées comme le milieu associatif dans son ensemble. Les radios associatives à la base partaient vraiment qu'avec des bénévoles et puis après peu à peu il y a eu des salariés puisqu'il y avait aussi un besoin de mettre des cadres. Certains étaient déjà des bénévoles ardus et puis finalement sont devenus salariés. Il y a eu vraiment aussi, quand il y a eu la libération des ondes, il y a l'État qui a mis en place le fonds de soutien à l'expression radiophonique, ce qui a permis aussi d'avoir des financements fléchés pour les radios associatives. Nous, ce qu'on a pu constater sur cet état des lieux qui est de 2006 à 2012, c'est de voir que les aides pour les radios associatives en Pays de la Loire se sont à la fois multipliées mais ont été cadrées par rapport aux missions et complètent le fonds de soutien de l'État. On voit aussi que le nombre de salariés a augmenté, ces salariés-là sont souvent en CDI, donc il y a aussi un vrai engagement des radios associatives d'éviter la précarisation de l'emploi. Voilà, des données qu'on n'avait pas forcément en travaillant au quotidien avec elles, mais vraiment en ayant des données socio-économiques particulières.
Et justement, au regard de ces données, quels travaux restent à faire? Qu'est-ce qui vous semble important de traiter dans les années à venir?
Ce qui est important, c'est de conserver l'aspect bénévolat. Certes, il y a une professionnalisation, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de l'engagement bénévole. Donc ça, il faut toujours rester vigilant là-dessus. Ensuite, il y a sur l'aspect de l'emploi, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'aide à l'emploi, en tout cas des dispositifs auxquels peuvent répondre les radios. Donc on a une baisse. Souvent, c'est des aides qui sont dégressives. Et donc là, il faut que les radios puissent faire face à ces baisses-là d'une autre manière, en diversifiant les ressources. Également, les radios associatives peuvent faire du mécénat. Pourquoi pas s'ouvrir et comment réussir, en tout cas, à aller vers le mécénat tout en gardant la même ligne éditoriale. C'est des enjeux auxquels pourront répondre les radios associatives dans les prochaines années.
Il n'y a pas de risque qu'avec Internet, la multiplication du nombre de supports, les radios associatives meurent?
Alors, il faut qu'elles soient toujours présentes sur l'ensemble des supports. Nous, on les encourage à travers aussi des projets comme le projet web qu'on a mené, où maintenant 10 radios de la Frappe ont des applications liées à leur site. Nous, on les encourage à être sur de la multidiffusion. Les radios qui diffusent en FM n'ont rien à voir avec les web radios ou alors des agrégateurs de podcasts. Là, on a une vraie vie, on a une contrainte d'antenne avec du 24-24. On a le temps qui dirige tout ça, donc c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes contenus. Elles ne mourront pas. Elles seront parmi d'autres programmes, mais les habitudes d'écoute et la radio reste un média fiable pour le grand public. Donc il y aura toujours cette confiance du grand public vis-à-vis d'une radio qui diffuse en FM ou en radio numérique.
Alors l'actualité de la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, c'est la semaine des radios associatives jusqu'au 13 février. Elle commence demain. Un mot sur le programme peut-être et sur l'importance d'une telle semaine pour la Frappe?
Alors là, on s'est dit qu'on allait faire cette semaine parce qu'il y a la journée mondiale des radios qui se déroule le 13 février. L'important, c'est de mettre un focus en fait sur le fait que les gens sont pas forcément au courant qu'ils écoutent une radio associative parce qu'ils écoutent Sun, Prune, Radio Campus et ils savent pas que c'est une radio associative et que les gens qui sont derrière les micros sont pas forcément des salariés, des journalistes encartés, mais ils font très bien de la radio et c'est un média alternatif. Donc là, c'est vraiment de montrer ça, de mettre en avant aussi les programmes qui sont spéciaux. Donc des fois, il y a des plateaux communs, des interviews qui sont avec des pontes et on pense que des fois, les radios associatives ne peuvent pas les avoir, mais si. Et puis, d'avoir des formats un peu plus ludiques comme le zapping des radios qui se fait sur cette semaine-là. On a également des portes ouvertes qui vont se dérouler le 8 février, le samedi. Donc il y a 10 radios de la fédération qui vont faire des portes ouvertes. Voilà, c'est des temps communs, c'est aussi pour prendre le temps aussi de se rassembler sur une action et d'avoir un coup de projecteur sur les radios.
Plus de visibilité en somme.
Voilà.
Merci beaucoup Charlotte Valti d'avoir accepté notre interview dans le sous-marin et bonne semaine des radios associatives en Pays de la Loire.
Merci à vous.
Notez donc ce rendez-vous demain soir à la place du sous-marin. Radio Campus Angers rediffuse tout nouveau, tout beau, l'émission collaborative proposée par les radios de la Frappe, co-animée cette fois-ci par Graffiti Urban Radio et Radio Campus Angers. Il sera question de l'innovation dans le milieu associatif ainsi que celui de l'engagement des bénévoles au sein de leur structure. À présent, au poste de vigie, comme tous les jeudis, on retrouve Aminata et son périscope. Aminata, chaque semaine, tu décortiques les journaux et analyses les infos. Cette semaine, tu zoomes sur le report de la loi famille.
La manif pour tous de dimanche a sans doute provoqué le recul de la loi famille. Cette loi instaure une prémajorité à 16 ans pour, par exemple, voter aux élections locales. Ensuite, un statut fixe destiné aux beaux-parents qui leur permettrait de signer certains papiers administratifs ou médicaux. Puis une simplification de l'adoption simple. Ce projet s'engage en aucun cas sur la GPA ou la PMA, des causes chères aux manifestants de dimanche dernier. Alors évidemment, la manif pour tous crie victoire. Il s'est écoulé à peine 24 heures entre la manifestation et les reculs du gouvernement sur cette fameuse loi. Ce report a bien sûr suscité de nombreuses réactions au sein de la majorité. Des réactions de colère, de déception, d'indignation, bref. Les médias soulignent le désarroi du Parti Socialiste. Une fois de plus, à gauche, on est
pas content, pas content.
Pour Libération, à force de renoncer, le gouvernement héros se définit plus par ses reculades que par ses engagements. Ouest France, avec Michel Urvoy, renchérit. Il n'est jamais bon pour un gouvernement de reculer sous la peur de la rue. Pour RTL, dans l'édito d'Alain Duhamel, le résultat est un fiasco. Il y a une division au sein du gouvernement. Le PS est frustré, les Verts sont furieux mais impuissants. Le journal de la Haute-Marne conclut et affirme « Le gouvernement a voulu éteindre un incendie, il en a rallumé un autre ». François Hollande est encore la risée des journalistes qui dénoncent son mandat en dents de scie et un président qui à chaque décision flanche. Pour le Figaro, c'est un président de la République dont on sait la faculté à dire tout et son contraire, à godiller entre les obstacles. Le résultat est le même pour Yann Marek avec Midi Libre. D'un point de vue politique, ce retrait ressemble à tous les autres. Sous la présidence d'Hollande, un tout petit pas en avant et de grands pas en arrière. Dans tout cela, le président de la République, il est perdant sur tous les points. Du côté des manifestants, c'est certain. Il déçoit son propre camp, il perd de plus en plus de majorité de la population. Deux quotidiens trouvent une explication à ce recul brutal de la loi famille. Et oui, notre président a voulu anticiper certains débordements possibles à quelques semaines des municipales. Pour le républicain lorrain, il s'agit bien sûr de calmer le jeu à la veille des municipales. À cette semaine des municipales, l'exécutif ne pouvait se payer le luxe d'offrir sous nos balcons la vision d'une France tourmentée et brisée sous le thème ô combien fédérateur de la famille, trop risqué. Les manifestants du dimanche ne sont pas les seuls à crier victoire. Et non, l'opposition se réjouit également de ce recul. TF1, lors du journal de 20h de mardi, titre « Projet de loi sur la famille reporté, la droite jubile et la gauche grimace ». Et oui, Éric Ciotti, député UMP, affirme que personne ne dirige quoi que ce soit. Mais Dominique Quignot pour La Croix et Jacques Camus pour La Montagne du Centre remettent les choses à leur place. Personne ne devrait cependant conclure à la victoire d'un camp au recul de l'autre camp, car une victoire suppose des vaincus qui n'auront qu'une idée, la revanche. De plus, la droite n'a pas à se glorifier d'une reculade du pouvoir dans laquelle elle n'y est pour rien. On s'indigne enfin devant le recul de la loi, car selon l'UMA et l'IB, elle avait des bienfaits incontestables pour la société actuelle. Elle visait à apaiser des conflits et les tensions que connaissent des milliers d'enfants ou de couples dans des familles adoptives ou recomposées, faute de statut et de droits. François Sergent, journaliste de Libération, s'interroge et indirectement demande au gouvernement pourquoi abandonner ceux et celles qui militent pour une conception moderne et ouverte de la famille. L'avenir est sombre au sein des familles de la France et au sein des familles politiques de la majorité. Et l'opposition, il est délicat de construire des bases solides avec des familles décomposées.
Merci Aminata pour ce retour en arrière sur cette semaine sur le report de la loi de la famille vu par les médias. On termine le sous-marin avec votre agenda de ce soir dans l'amphibasin de Luco à 20h, donc dans 10 minutes. Retrouvez un spectacle musical dans le cadre de la folle journée de Nantes. L'entrée est libre. Le conservatoire vous invite à la danse au Grand Théâtre à 20h30, au Téroc à 21h33, un DJ set, surprise, surprise. Et enfin au Jacaré à 22h, Deep House et Techno avec Pipolp, Batista Batenko et And to my. Voilà, il est l'heure pour nous de lâcher l'immersion aux manettes. Ce soir, c'était Antoine. Et derrière les micros, Rémi, Pierre-Antoine et Aminata. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site internet www.radiocampusangers.com. Tout de suite, vous retrouvez une rediffusion de Turbulence, l'émission des groupes locaux avec San Carole dans le micro. Avant de remonter à la surface, on vous quitte avec la bulle sonore. Valentin est allé faire un tour à la première soirée concert du nouveau café concert, le Joker's Pub. Il y a promené son micro. Merci à vous d'avoir embarqué dans le sous-marin. Demain à 19h, vous retrouvez donc tout nouveau, tout beau, le programme de la Frappe. Je vous souhaite donc une très bonne soirée à l'écoute de Campus et déjà un très bon week-end. Allez, bisous.
Hier soir, c'était l'inauguration du bar concert le Joker's Pub rue Saint-Lô à Angers. Dès 19h, j'étais à mon poste pour prendre la température. Client présent, musique assurée par Coco Grulls, l'ambiance était bien là, comme l'ont souligné Emmanuel et Sylvain.
Il y a pas mal de monde. Je pense que la communication elle est bien passée par rapport à la promotion de l'événement. Et ça se remplit toujours là, en ce moment même. Donc je pense que ce soir, là, quand le concert va commencer, ça va être blindé.
Ça chauffe un peu, hein. Il y a quand même assez de monde. Là, je suis assez surpris, franchement.
Et que pensez-vous de l'ouverture d'un bar-concert en centre-ville ?
Le concept il est pas nouveau mais c'est à Angers, c'est vrai qu'on en manque vachement. Ça fait toujours plaisir quoi, quel que soit le style de musique qui passe.
Franchement ça fait du bien parce que le seul que je connaissais moi c'était le Jam Club et s'il y avait le Terror Coco aussi mais je les ai jamais vraiment fréquentés. Là ça me fait du bien parce que c'est assez près de chez moi donc c'est plutôt pas mal.
Et comment vous avez connu le Jokers?
Je l'ai connu, c'est via les réseaux sociaux quoi. Via le Shabada aussi. Et je pense que de toute façon aujourd'hui la communication de ce genre de trucs ça se fait assez rapidement.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine.